Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau, eh bien qui pour la dernière fois de la saison se met en mode printemps des classiques, et oui, c'est désormais terminé avec la doyenne qui s'est achevée. Eh bien, on va passer désormais sur les grands tours, mais avant de parler du Giro qui va débuter très bientôt, on voulait faire ce bilan finalement de toutes les classiques du printemps. Et pour en parler, comme à chaque épisode, j'accueille Alexis et Damien. Salut les copains!
Salut tout le
Salut,
monde.
salut.
Alors, ce bilan des printemps, on ne peut pas, pardon, le faire sans évoquer évidemment quelques grands noms. Mais on va essayer finalement de faire abstraction de ces grands champions parce que beaucoup d'ailleurs l'ont souligné sur les réseaux sociaux notamment. On aurait vécu un printemps finalement d'un ennui fantastique. C'est un petit peu ce qui ressort ici à cause ou grâce à Van der Poel et Pogacar. Alors, messieurs, en une minute, et après on évacue les fantastiques de côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ces grands noms et de façon générale, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, eh bien, on vient de vivre un printemps qui a manqué le spectacle, tout simplement, Damien?
Pas du tout. Bon, je prends 15 secondes pour dire que ce que Pogacar, le meilleur coureur du monde, et Van der Poel, le meilleur coureur sur son terrain, font, c'est tout simplement hyper spectaculaire. Je peux comprendre qu'on dise que ce soit ennuyeux pour certains aspects, mais c'est hyper spectaculaire, comme les bagarres pour certains accessits d'ailleurs.
Oui, effectivement, c'est vrai que tu l'as dit, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, ce sont les deux qui ont animé le printemps des classiques, puisque les autres étaient absents sur chute. Des fantastiques qu'on n'a jamais véritablement vus au duel. Et donc, c'est ça qui a pu donner parfois peut-être l'idée d'avoir une course où on savait quoi qu'il arrive ce qui allait se passer. Sauf dans une course, c'est la doyenne, mais là, Van Der Poel n'était pas sur le terrain de Pogacar. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de duel finalement.
Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, voilà, extraordinaire, incroyable, tout ce que vous voulez, oui, mais spectaculaire pour moi, non, tout simplement parce que c'est pas vraiment du spectacle que j'apprécie de voir. Maintenant, voilà, Mathieu Van Der Poel, c'est un monstre générationnel. C'est quelqu'un qui, sur son terrain, comme tu dis, serait un monstre, peu importe la génération sur laquelle il tombe. Mais Tadej Pogacar, c'est encore bien plus que ça. Et voilà, Mathieu Van Der Poel, je pense que il essayera à nouveau sur Liège-Bastogne-Liège, mais que pour pouvoir gagner sur Liège-Bastogne-Liège, il lui faudra beaucoup de circonstances favorables, notamment l'absence de Tadej Pogacar.
Voilà. Alors, on vous promet, on vient de passer la minute, on vous promet, on ne parlera plus dans cet épisode de Mathieu Van Der Poel ni de Tadej Pogacar parce que malgré tout, ce printemps des classiques a offert pas mal de choses intéressantes, certaines même moins intéressantes aussi à voir. Et donc, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, messieurs, quel est finalement, donc indépendamment de ce dont on vient de parler, quel est le coureur qui vous a marqué sur ce printemps des classiques 2024?
Bah, pour moi, du coup, hors fantastique, le coureur du printemps, c'est Jasper Philipsen, tout simplement parce que déjà, c'est le seul non fantastique qui gagne un monument. Ensuite, il vient quand même faire deuxième d'un autre monument, c'est peut-être même le deuxième ou le troisième plus fort de Paris-Roubaix. Il vient gagner la classique Bruges de Panne, il fait quatrième de Gent-Wevelgem. Donc voilà, il montre que, en plus d'être le meilleur sprinteur du monde, c'est un excellent classicman. C'est quelqu'un qui est déjà là et sur qui il faudra compter les années prochaines également. Si Alpecin ou non, mais il faudra compter dessus pour les classiques, ça c'est clair.
Bah, on peut qu'être d'accord, je pense. C'était mon deuxième choix. Mon premier choix, c'est Maxime Van Gils.
Ouais.
Maxime Van Gils, lui, c'est troisième d'Estrade. Donc, il faut se retourner loin déjà, l'Estrade. Hein. Troisième d'Estrade, septième de Sanremo, 20e à la Flèche, mais bah, avec les favoris piégés, finalement, ça ne reflète pas son vrai niveau. Troisième de la Flèche Wallonne, quatrième de Liège, et plus fort que le troisième dont on ne peut plus prononcer le nom. Maxime Van Gils, je vais faire très simple. Pour moi, il vient de s'affirmer comme un coureur top mondial. Je vais dire les termes. On va plus minimiser les performances de Maxime. C'est un coureur top mondial.
Je suis assez
Avec
d'accord,
peut-être un petit
effectivement.
plateau de verre, mais top mondial,
Ouais, je ne suis même pas encore sûr. Oui, il doit encore passer le step pour gagner plus, mais bon, voilà. Ouais.
Je suis assez d'accord, c'était d'ailleurs mon choix aussi, Maxime Van Gils, même si de nouveau, je vous rejoins, hein, c'est vrai que Jasper Philipsen, mais est-ce que c'est peut-être pas finalement quelqu'un qui est passé ce printemps dans la rubrique des fantastiques? Ça, ce sera pour un autre peut-être débat plus tard, mais Maxime Van Gils, clairement, tu l'as dit, des belles places d'honneur. J'ajoutais même que en début de saison, hein, troisième sur la Drôme, cinquième sur l'Ardèche classique, plus récemment deuxième au Grand Prix de Raynes. En fait, si on prend le nombre de points UCI marqués par Maxime Van Gils depuis le début de la saison. Il en est déjà à 1590, c'est énorme. Il est 22e au classement UCI officiel de l'UCI, forcément. C'est le deuxième coureur d'une équipe Pro Tour. Vous savez qui est premier?
D'une équipe Pro Tour?
Oui.
Non.
Ben c'est Arnaud Delis. C'est Arnaud Delis parce que
ah oui
ce classement UCI, forcément, il s'établit sur 12 mois. Hein. Et donc,
ah oui, d'accord.
Voilà. Mais donc, effectivement, Maxime Bagui, je te rejoins tout à fait. C'est un coureur qui s'est affirmé aujourd'hui comme faisant partie du top mondial. Il est encore très jeune. Il va encore progresser. Et donc, c'est inévitable, je pense, qu'on reparle de lui. Déjà cette saison, il y a encore quelques courses qui vont arriver ici. Puis, on le verra sur notamment le Tour de France, sur la Vuelta. Donc, voilà un coureur qu'on va suivre avec grand intérêt sur également d'autres profil que des classiques printanières, et c'est ça qui, je pense, est aussi intéressant puisque c'est un coureur qu'on va donc retrouver tout au long de l'année. Jasper Philipsen, Maxime Van Giel, ce sont donc, on va dire, les coureurs de ce printemps pour le petit plateau, mais il y a eu d'autres, évidemment, coureurs qui ont montré de belles choses. On va un peu expliquer ici à nos auditeurs. On a choisi de vous parler systématiquement de deux coureurs selon différentes catégories, un plutôt axé flandrienne, un plutôt axé ardennaise. C'est pas systématique, ne nous en voulez pas si parfois on déroge un peu à cette règle, mais commençons donc par les grosses satisfactions finalement de ce printemps. Quels sont les coureurs, au-delà donc de Jasper Philipsen et de Maxime Van Giel, que vous avez envie de mentionner, de souligner ici pour ce printemps?
Moi, donc, pour les Flandriennes, dans un premier temps, j'avais envie de mettre en avant Niels Politte comme ma satisfaction, mais dans le sens où je ne savais pas si je pouvais m'y attendre. Parce que bon, Niels Politte, il a déjà montré de très belles choses sur les Flandriennes. Il avait déjà deux top 10 à Paris-Roubaix avant cette année-ci. Mais avec son transfert, moi, j'avais un petit peu peur qu'il soit limité à un rôle de rouleur sur les étapes de plaine, vraiment un rôle de coéquipier pour les innombrables leaders de chez UAE. Mais au final, il a eu un rôle assez libre ici sur les Flandriennes. Troisième quand même du Rhône d'après des classements. Quatrième de Paris-Roubaix, il aurait pu encore viser mieux. Deuxième de Nomlop, on s'en souvient très bien. Et septième de l'E3. Donc vraiment un véritable Flandrien, quelqu'un qui en plus a été gêné sur Paris-Roubaix. Un gazier comme il y en a peu au final est vraiment une vraie satisfaction pour moi. Je n'attends peut-être même pas de le voir aussi fort, donc je suis très ravi de son niveau.
Ouais. Moi, ce qui m'a marqué avec lui, je me permets, parce que je l'avais pour une autre catégorie, mais j'en parlerai pas du coup, mais juste ajouter un tout petit truc. Ce qui est surtout bluffant, c'est qu'il y a certaines courses où, dans l'absolu, on peut l'attendre, en dehors de son rôle, où je suis d'accord avec toi, on savait pas ce qu'on pouvait attendre, mais il a monté sa grande carcasse sur des bergs. Moi, ça, je m'y
Ah
attendais pas,
ouais.
par contre. Le 3 et le run, c'est quand
Clairement.
même assez exceptionnel, donc je comprends tout à fait que tu le cites, ouais.
Oui, et c'est vrai que pour rester sur Politte, qui était aussi ma satisfaction pour les Flandriens de cette année-ci, dans une équipe qui était privée de son principal leader, dont on taira le nom. Alors oui, effectivement, il y a pas de succès à la clé, mais effectivement, ce sont de très belles places, tu les as mentionnées, Alexis. Je vais même aller plus loin. Quand on regarde les autres classiques flandriennes auxquelles il a pris part et où il ne fait pas un top 10, ben, on a à travers les Flandres 12e, on a Kuurne 26e, Gent-Wevelgem 27e et la Bredene Classic, qui est une classique de sprinter, 28e. Ça veut dire que dans toutes les classiques flandriennes auxquelles Niels Politte a pris part, il est systématiquement dans le top 30. Ça montre que c'est quelqu'un qui court devant, qui court de façon offensive, qui prend l'initiative et même quand ça ne marche pas, il continue à se battre jusqu'au bout pour faire une place honorable. Donc c'est vraiment, je trouve, un cours à saluer, qu'on avait déjà vu par le passé très fort ces Flandriennes, mais qui très nettement ici a profité de son transfert depuis Bora chez UAE.
Oui, moi, ma satisfaction, elle va peut-être plus diviser les gens. J'ai choisi Mats Pedersen. Peut-être plus divisé parce que peut-être que certains s'attendaient encore à plus de la part de Mats Pedersen, évidemment, puisqu'on le cite souvent. Mais pour moi, il répond sur Milan-San Remo. Il est pas mal, quoi, on va dire, hein, sur Milan-San Remo. Quatrième. Il est 11e de l'E3. Il est, je cite d'abord que ses résultats un peu décevants, 22e du round. On n'oublie pas qu'il avait chuté dans la semaine. Il est troisième de Roubaix. Et il gagne surtout Gent-Wevelgem. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre hein, quand même, en battant Mathieu Van Der Poel en duel. Mais surtout, je trouve qu'il a pris ses responsabilités. Alors parfois, peut-être trop, parfois,
Ça,
il
c'est
n'a peut-être
clair.
pas couru le mieux à l'économie, etc. Mais il a pris ses responsabilités, il a quand même fait des belles performances. Les résultats bruts ne veulent pas tout dire. Sur le run de 22e, le résultat brut, c'est pas top. Mais après sa chute, le gars, il passe encore au sommet du Koppenberg, 2e ou 3e, je ne sais plus. Donc pour moi, c'est une vraie satisfaction quand même, Mats Pedersen, sur cette campagne. Et je pense qu'il faut ne pas vouloir trop de Mats Pedersen. Je pense qu'on a tendance, Alexis, tu l'as mis sur un tweet et je suis d'accord avec toi, qui était une courbe comme ça et citer un coureur. Effectivement, on a tendance parfois à trop le sous-estimer et parfois à trop le surestimer. Mais justement, je pense que les attentes, quand on le surestime un peu trop, ben, ça biaise les attentes. On va peut-être penser que c'est pas une satisfaction. Pour moi, il a tout à fait répondu aux attentes, en fait.
Bah pour moi, satisfaction dans le sens où il confirme un peu ce qu'on disait sur lui. C'est-à-dire que c'est un excellent coureur, mais voilà, comme tu dis, parfois on le surcote, parfois on le sous-cote. C'est un très très bon coureur, un coureur de classe mondiale, l'un des meilleurs au monde. Mais qui est quand même en dessous d'un certain niveau, d'un niveau extraordinaire de certaines personnes dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc voilà, satisfaction à ce niveau-là. Et par contre, coureur frisson, là, totalement. Vraiment un coureur qui est magnifique à voir.
Oui, c'est vrai que pour ne pas, enfin, pas refaire l'histoire et revenir sur ce dont on parlait en tout début d'épisode, mais voilà, dans un printemps où on a parfois manqué peut-être d'un peu de suspense dans certaines courses, pardon, ben Mats Pedersen, le suspense, c'est souvent lui qui l'a créé, qui l'a généré, donc c'est aussi à mentionner. Et c'est vrai, il y a peut-être ce manque d'un résultat vraiment probant sur le round, j'allais dire sur les monuments, mais plutôt sur le round. Mais de notre côté, effectivement, c'est quelqu'un qui a fait la course sur ce run. Donc, c'est un bon choix aussi, Mats Pedersen. Nils Polite, les satisfactions finalement du petit plateau sur les Flandriennes et sur les Ardennaises, alors, qui avez-vous envie de mentionner?
Vas-y Alexis, parce que moi j'en ai plusieurs, alors je peux changer en fonction de
Ah!
ton choix.
Ok, ben moi j'ai eu envie de parler de Maury Van Sevenant. Parce que, en fait, satisfaction dans le sens où on l'avait déjà vu, ça avait déjà été une petite promesse il y a quelques années, mais non seulement on l'avait jamais vu à ce niveau-là, mais en plus de ça, moi je ne m'attendais plus du tout à le voir à ce niveau-là. C'est vraiment, il va au-delà de ce qu'il nous a promis, j'ai l'impression. Parce que là, cette année, que ce soit sur l'Amstel ou sur Liège, on a vu un coureur qui se battait avec les tout meilleurs, on a vu un véritable leader de son équipe, peut-être le meilleur coureur final, et c'est de dire de cette campagne de classique de ce printemps. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, peut-être pas son style de son esthétisme sur un vélo, mais j'ai beaucoup apprécié en tout cas la puissance qu'il dégage. J'ai hâte de voir la suite, notamment le Giro.
Ben oui, je ne sais pas ce que toi, Romain, t'en penses, mais moi, je l'avais noté dans mes coups de cœur, puisque, spoiler, on aura une rubrique coups de cœur. Le retour, j'avais noté, de Maurice Van Sevenant, et même
Ouais.
plus. Parce qu'en fait, la
Ah
manière
oui.
dont il va chercher deux beaux résultats, mais la manière dont il va chercher ses résultats, j'ai l'impression que j'ai même jamais vu du si bon Maurice Van Sevenant sur des classiques
Ah,
de ce
pareil.
niveau-là, en fait.
Oui, moi je l'ai pas mentionné. Enfin, j'y avais pensé aussi, mais effectivement, peut-être plus pour les coups de cœur. Par contre, moi j'étais parti sur Benoît Cosnefroy, sur les Ardennaises. Il était lui par contre en revanche ici par rapport à Van Sevenant, ben, Cosnefroy, on l'attendait. On l'attendait et il a répondu présent. Il remporte une des quatre Ardennaises, la première, la Flèche Bramontaine, la plus belle, hein, si on en croit notre ami Alexis, évidemment. Mais au-delà de ça, il s'est montré. Si je prends l'exemple de Liège, il était à l'attaque, il était dans les bons coups. Il termine finalement un petit peu plus loin que ce qu'il méritait sans doute sur la doyenne. On l'a vu aussi en évidence sur l'Amstel. On l'a vu bien évidemment sur la flèche wallonne. Donc voilà, quelqu'un qui a répondu présent, qui a offert ce succès printanier à son équipe. Et qui, bah, du coup, je trouve, est tout à fait une satisfaction de ce printemps.
Est-ce que je peux considérer l'Estrade comme une Ardennaise? Parce qu'il a fait 6e d'Estrade aussi. Hein. Je l'avais noté parce que c'était aussi mon premier choix, en fait, tu vois.
Ah
Et
ben
oui.
voilà.
Mais voilà, je disais que j'avais plusieurs noms. Effectivement, j'en avais plusieurs à égalité. C'est moins claquant dans les résultats. Mais moi, du coup, je vais partir sur Romain Grégoire, qui fait sa première campagne d'Ardennaise. Le garçon est dans les bons groupes sur les trois Ardennaises. Le garçon, c'est assez incroyable. Il ne faut pas se fier qu'aux résultats bruts. Il est chaque fois dans les bons groupes. Ben, craquito, hein. Enfin, je veux dire, pour une première campagne, je serais curieux, alors je ne me suis pas amusé à chercher, mais de voir dans tous les coureurs qui fait aussi bien sur sa première campagne. C'est la première fois qu'il fait les trois courses, il n'avait jamais fait aucune. Moi, je suis impressionné par Romain Grégoire. Et pour moi, il a pris rendez-vous pour l'avenir très clairement. Parce que parfois, on l'a vu en plus en course tenter des choses. Donc, pour moi, réelle, réelle satisfaction de cette campagne, Romain Grégoire.
C'est une satisfaction ou une révélation? Tu vas me dire, c'est un nom qu'on connaissait bien évidemment avant le début de cette saison, qu'on attendait peut-être aussi sur les Ardennaises au sens général, pas forcément sur l'ensemble des courses. Mais du coup, pour les révélations, cette fois-ci, tu es parti sur autre chose, j'imagine.
Oui, ben je vais d'abord commencer peut-être pour rester dans l'ordre par les Flandriennes. Effectivement, hein, Romain Grégoire, pour vite répondre là-dessus, pour moi, satisfaction, trop connu que pour être révélation en fait. Moi, révélation, c'est des mecs, je ne vais pas dire que je ne connaissais pas leur nom, je connaissais leur nom, mais c'est tout ce que je connaissais d'eux. Et donc, je suis parti sur Laurence Pitty pour les Flandriennes. Extraordinaire. Ça a été la révélation du début de saison avant les classiques, et pour moi, sur les Flandriennes, il a pleinement confirmé son statut de révélation. Il a confirmé son Tour d'Under, il a confirmé son Paris-Nice. Dans les résultats bruts, de nouveau, ça se marque pas tant que ça, mais il a fait des courses. Et avec en Point d'Orgue, ben, la dernière course à laquelle il a participé, Paris-Roubaix, où c'est quand même assez magnifique, il est devant, il chute. À tous les coups, tout le monde se dit, il va être repris par le groupe derrière, c'est triste pour lui. Non, le guerrier, il repart tout seul. Finalement, il y a encore Vermeersch qui est là, il termine E2, mais extraordinaire pour moi. Vraiment une confirmation. Et je crois, vu que c'est pas un coup esseulé, il a montré des belles choses très, très, très souvent depuis le début de saison. Je pense que là aussi, on tient un coureur très intéressant pour l'avenir.
Rien à rajouter, Damien, si ce n'est qu'on parle ici d'un gars qui a 21 ans. 21 ans et qui vient faire 7e de Paris-Roubaix. Moi, je ne peux pas dire quelqu'un d'autre que Laurence Pitty. Désolé, je vais devoir mettre le même nom que toi, mais Laurence Pitty, dans mes révélations de cette année pour les Flandriennes, extraordinaire. Peut-être même la classique, la campagne flandrienne la plus mal payée de l'histoire au final, parce que comme tu dis, on l'a vu tout le temps. Dans toutes les courses auxquelles il a participé, c'était l'un des meilleurs à un moment ou à un autre. Et au final, les résultats ne démontrent pas du tout le niveau affiché, si ce n'est à Paris-Roubaix, et encore. Donc, ouais, Laurence Pitty, vraiment, qui lui aussi, comme tu disais, Grégoire, il prend rendez-vous pour l'avenir et sacrément.
Ouais, mais c'est
Toi,
vrai que
Romain.
Grégoire, Pitty, le cyclisme français, et on l'avait mentionné avec notre épisode spécifique avec Cyril Sougrin, hein, rappelez-vous, où on avait effectivement évoqué les grands noms en devenir du cyclisme français. J'en ai choisi un aussi comme révélation, c'est Pierre Gautrat. Alors lui aussi, c'est quelqu'un, finalement, quand on va regarder les classements finaux des courses, on ne verra pas son nom dans les top 20, mais c'est quelqu'un qui, dès que les pavés sont arrivés, peu importe la course, il était présent. C'est même dommage, finalement, qu'il n'ait pas été plus à l'offensive et qu'il n'ait pas pris plus d'initiative. Mais quand vous regardez au-delà du résultat brut, quand vous regardez les temps de passage sur les monts pavés, sur les secteurs pavés, c'est hallucinant. Il est systématiquement dans les 3-4 meilleurs. Donc Pierre Gautrat, c'est quelqu'un qui, de ce que, moi je ne le connais évidemment pas du tout personnellement, mais de ce que j'ai pu lire par ailleurs, est quelqu'un qui a découvert une passion pour les pavés durant ce printemps. J'espère que ça va continuer et je suis persuadé que Décathlon a trouvé enfin le coureur qu'il cherchait sur les pavés. Ça n'a pas fonctionné comme il aurait voulu avec un Van Avermaet, avec un Asen qui est quand même revenu bien en jambes ce printemps-ci. Mais avec Gautrat, là, je crois que pour l'avenir, on a vraiment quelqu'un qui effectivement s'est révélé tout simplement sur ce printemps des Flandriennes.
Alors, c'est marrant, tu dis Décathlon a peut-être trouvé sur les Flandriennes. Est-ce que vous allez m'étonner ou pas? Est-ce que Décathlon a aussi trouvé une révélation pour les Ardennaises?
Pour moi, oui.
Vas-y.
Paul Lapeyrat.
Ben oui, dis-nous plus.
Ben, Paul Lapeyrat est quelqu'un qu'on a vu de nouveau sur plusieurs des courses ardennaises. Son Amstel m'a vraiment marqué. Et finalement, tu as évoqué pour Pitty sur Roubaix cette idée de ce coureur qui part à l'offensive, qui tombe, qui repart malgré tout, qui n'abandonne jamais. Lapeyrat, c'était la même chose sans la chute finalement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à l'offensive toute la journée. Et c'est encore lui qui finalement part en chasse-patate pour s'offrir une cinquième place magnifique. Probablement aurait-il mérité aussi une meilleure place sur Liège s'il avait pu être mieux placé et moins gêné dans son sprint. Mais donc voilà quelqu'un qui a énormément travaillé durant ses Ardennaises, qui s'est malgré tout offert de très belles places sur ces quatre courses. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que les courses World Tour, il y a les manches de la Coupe de de France aussi, où là, Paul Lapeyrette a cherché quelques très beaux résultats de ce côté-là aussi. Donc vraiment, sur ce printemps, dès que la route s'élève un petit peu, ben, Paul Lapeyrette, pour moi, est une des révélations. C'est un nom, je terminerai par ça, qu'on avait mentionné quand j'y on, c'est pas le petit plateau parce qu'on n'existait pas encore, mais il y a 2 ans, c'est un nom que les observateurs avaient coché parmi les néo-pros, en devenir en tous les cas. Et l'année passée, il était passé un petit peu à travers les gouttes. On n'avait pas trop entendu parler de lui. Cette année-ci, ça a marché assez tôt dans la saison. Et comme souvent chez les jeunes, une fois que ça marche bien, ben, la confirmation n'est pas loin. Et c'est le cas pour Paul Lapeyrette, qu'on va inévitablement revoir même encore cette saison, je pense.
Oui, parce que tu parles des Coupes de France, mais il a même gagné un World Tour au Pays Basque.
Révélation, un petit peu triché parce que c'est un coureur qui n'en a fait que deux, voire une et demie, mais c'est Marin Vandenberghe. Alors, il y en a évidemment plein d'autres, j'aurais pu en parler, j'aurais pu vraiment parler de plein d'autres coureurs, mais c'est un coureur, ses passages sur la Moskva Strade m'ont tellement choqué que je devais en parler. Alors là, je voulais dire, je triche encore plus parce que la Moskva Strade, c'est un mont pavé, ça n'a donc rien à voir avec les Ardennaises, mais il est quand même présent à l'Amstel, il fait 11e. Il aurait pu faire encore bien mieux. Donc, je ne m'attendais pas à voir un gars pareil, qui est plutôt un sprinteur de base, être aussi fort dès que la route s'élève. Donc, vraiment, j'avais envie d'en parler parce que pour moi, on entendra parler de lui sur les classiques. Il a prouvé pour l'année prochaine qu'il devrait être présent sur les classiques et pas que sur les Ardennaises d'ailleurs.
M'a bluffé aussi. Et la flèche Brabanson, on pourra toujours se demander, hein, sans le move
Oui.
un peu bizarre, ce que ça aurait donné.
Tout à
C'est bien ce
fait.
que tu triches. Je vais tricher aussi, parce que c'est pas vraiment un Ardennais, ma révélation. C'est pas totalement un Flandrien. Ça passe partout. Alors souvent, on va chercher des jeunes pour les révélations. Ben moi, je vais aller chercher Tom Skuins. Tom
Ouais,
Skuins,
à fond.
il nous a fait une campagne de classique extraordinaire. Déjà, dès le Newsblatt, donc, monsieur se permet d'attaquer les Visma qui sont en surnombre dans l'échappée. Allez, hop, on y va, on fait presque craquer Wout van Aert. Allez, tranquille. On enchaîne avec De Strade. On va chercher la deuxième place quand même. Pas mal, hein? Non, non, mais il a été incroyable. Il a été incroyable sur les pavés. 8e de l'E3, 10e du Run, on le voit tout le temps. Et puis, il y a une flèche wallonne dantesque. Et monsieur est encore dans le bon groupe. 12e au sommet du mur de Huy. Extraordinaire. Franchement, Tom Skuins, on le connaissait
À
bon
fond.
coureur, mais malgré tout, même si on le connaissait bon coureur, voilà, bon petit coureur, on va dire, pour moi, totale révélation de le voir à ce niveau-là, en fait.
Je suis d'accord. Et dans un autre niveau, Alex Kirsch aussi, son équipier, incroyable aussi. Je m'attendais pas à ce niveau-là non plus.
Ouais.
Mais voilà pour les révélations du petit plateau de ce printemps 2024. Alors, si vous deviez aussi choisir peut-être un nom, alors. Ce n'est pas vraiment une révélation, ce n'est pas vraiment une satisfaction, mais c'est peut-être un coureur qui est passé un peu entre les gouttes pour s'offrir quelques beaux résultats. En tous les cas, un coureur dont finalement on se dit à l'issue de ce printemps, ben, en fait, on n'en a pas parlé ou très peu et on aurait dû en parler davantage.
Moi, j'en ai un et ça rentre bien dans le thème parce que c'est un coureur, j'aurais pas misé un copec sur lui, loin de là, même pour des accessites. C'est Jordi Meus qui, pourtant,
Oui.
avait déjà parlé de sa volonté de briller sur les Flandriennes. Je n'y croyais pas du tout. Et voilà, il vient quand même faire 12e de Kuurne, 3e de Gent et 8e de Paris-Roubaix, excusez du peu. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Il m'a bluffé.
Moi, j'avais pas compris le thème comme ça, donc je suis désolé, je vais un peu sortir du cadre. Moi, je l'ai compris comme je voudrais parler de lui, on en a un petit peu parlé quand même, mais on met pas assez en avant par rapport à ce qu'il accomplit. Et j'avais 2 noms, donc je triche doublement. Il y en a un, du coup, je vais citer sans argumenter, je suis bien obligé, je vais pas faire trop. Je vais citer, alors au hasard entre les deux, sans argumenter, je vais citer Tim Wellens. Et en argumentant, je vais citer Tiche Benoot, coureur dont je veux parler, parce que je pense qu'il faut sans cesse rappeler le coureur extraordinaire qu'il est.
C'est clair.
Franchement, c'est un mec, c'est un, il peut être le meilleur équipier du monde, il peut être le meilleur leader de substitution du monde, il peut l'être sur des Flandriennes, il peut l'être sur des Stradé, il peut l'être sur des Ardennaises, il peut l'être partout. En fait, ce mec, c'est une machine, et c'est une machine, mais hyper fiable, sur laquelle tu sais que tu peux compter, peu importe le terrain et peu importe le rôle que tu lui donnes. On n'oublie pas que dans sa campagne, qui était quand même vraiment pas dégueu, il a roulé avec un problème aux côtes à un moment donné aussi. Hein. Donc je pense qu'avec les soucis qu'il y a eu dans son équipe et tout ça, il vient là au pied levé, il faut toujours rappeler le coureur qui est Tiche Benoot.
Bah, je vais tricher aussi du coup. Je vais sortir 2 noms. Le premier, c'est Michael Matthews. Michael Matthews est quelqu'un, je pense, qui, dans le petit plateau, n'a pas été mis en avant une seule fois. En tout cas, je ne pense pas qu'on ait cité son nom. Pourtant, voilà quelqu'un qui doute 33 ans, je pense, il en a 33, hein. Enfin, il n'est plus tout jeune non plus. Mais voilà quelqu'un qui s'offre une deuxième place sur Milan-San Remo, qui s'offrerait une troisième place sur le Rand avant d'être déclassé pour un sprint jugé litigieux par les commissaires.
On avait.
On aura tous un avis sur la question. Et qui est encore présent sur Liège-Bastogne-Liège, sur une classique qui, à la base, ne semble pas du tout lui convenir. On le rappelle, on était, Damien, hein, sur la Redoute. On l'a vu passer vraiment, vraiment à la peine. Il termine 36e, voilà, pour petite histoire. Mais voilà quelqu'un qui ne s'est jamais caché, qui s'offre de très, très belles places, qui a permis finalement à Jaikho Alula d'exister sur les classiques. C'est une valeur sûre et je trouve que ça méritait bien un petit clin d'œil. Et puis un autre, du coup, je n'ai pas argumenté ou très très peu, c'était Luca Mazzotto. Luca Mazzotto, deuxième du round, un peu par surprise, il faut quand même se l'avouer, qui gagne également la Bredene. Pourquoi je dis Luca Mazzotto? Parce que dans un effectif comme Marquia, qui est un effectif qui est fort axé sur les classiques printanières, notamment les Flandriennes, mais avec une densité sans qu'on puisse véritablement sortir un élément du lot. Hein, vous avez les Capio, les Birmans, etc. Voilà, Mozzato, je pense, aujourd'hui, surtout dans une équipe où on attendait plutôt un Sénéchal, bon, qui est tombé, mais voilà Mozzato qui est devenu, je pense, leader de son équipe. Et donc voilà pourquoi j'avais envie de le citer également.
Oui, et Arkea, hein. Vaukela qui fait deuxième aussi. Arkea, ils ont été pas mal. Hein.
Tout à fait. Mais
À
justement,
l'inverse,
peut-être.
ah oui,
Oui,
vas-y.
vas-y.
Non, j'allais dire si à l'inverse, parce qu'on parle beaucoup des coureurs positifs, positivement, pas des coureurs
Oui.
positifs, surtout pas dire ça, Damien, des coureurs positivement. Est-ce que vous avez à l'inverse des
Parce qu'on
déceptions?
m'a dit qu'on n'en parlait pas.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez à l'inverse des petites déceptions ou des grandes déceptions?
Oui, c'est inévitable. C'est inévitable. Je vais commencer, je me permets, parce que ça va être très court. Mathias Kielmoze. Indépendamment du fait que le gars a annoncé qu'il avait les jambes de sa vie et qu'il le sentait super bien et qu'il se voyait sur le podium avec les fantastiques sur toutes les courses auxquelles il participait, voilà quelqu'un qui, par rapport aux ambitions affichées, par rapport au talent aperçu la saison passée, voilà quelqu'un qui est passé un peu à côté, tout simplement, de cette campagne dardennaise en ce qui concerne.
Exceptionnellement, est-ce qu'on peut un tout petit peu débattre de ce cas-là? Alexis, j'aimerais bien ton avis et puis je vais donner le mien. Parce que j'y avais songé et j'ai quelque chose à dire.
Kelmos, il m'a aussi déçu dans le sens où je l'attendais plus fort, pas dans le sens où je l'espérais plus fort, mais en effet, bon, il y a la Flèche Wallonne là, forcément rien à dire. Hein. Le pauvre, il a été complètement pris par le froid. Mais c'est vrai que sur Liège.
En fait, c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est sur la Flèche Wallonne. En fait, je pense que la campagne de Skelmose ne reflète pas du tout son niveau. J'ai du mal à être déçu. J'ai du mal à être déçu. Pourquoi? Parce que l'Amstel, ils sont tous, à part Pidcock, j'en ai déjà parlé, pour moi, ils m'ont tous déçu, les grands noms. Donc voilà. Je passe là-dessus. Il est parmi les plus forts, je pense. Arrive la flèche. Le gars termine, hypothermie, machin chouette. Pour moi, c'était évident que Liège, fallait rien attendre. Presque, j'attendais moins que ce qu'il a
Oui,
fait.
c'est pas sûr.
Alors, par contre, là où j'entends, c'est que monsieur fait des grandes déclarations. Donc ça peut jouer, effectivement. Mais voilà, j'avais mis Skelmose dans ma shortlist et je me dis, mais en fait, je sais pas, parce que je le trouve excusable par rapport à d'autres. Bref, pardon pour ce petit aparté. Alexis, petite
Non.
déception, grande déception?
Bah écoute, moi j'en ai quand même plusieurs, mais du coup, je vais quand même rester sur les Ardennaises. Je vais parler de Ben Illy. Pas qu'on l'a pas vu, on l'a vu, hein, en soi. Il a peut-être eu un rôle différent que l'année dernière aussi, mais on parle d'un gars qui fait deuxième de la Flèche Brabançonne parce qu'il ne s'est pas sprinté l'année dernière, d'un gars qui fait quatrième de Liège-Bastogne-Liège parce qu'il ne s'est pas sprinté l'année dernière, et deuxième de l'Amstel, et même à un moment où on croit que sans la voiture, hein, il est capable de revenir sur Pogacar. Donc vraiment, éclosion monstre l'année dernière, et là, bah, voilà, on l'a peut-être vu à chaque course, mais au final, dans la finale, fantomatique à chaque fois.
Totalement d'accord avec toi. Un peu moins fantomatique sur Liège, quand même, où il
Ouais.
essaye autre chose, mais assez raccord avec ce que tu dis. Et moi, donc, je sais mettre les coureurs français en avant, mais malheureusement, on va peut-être perdre aussi quelques auditeurs. Je ne peux pas passer sous silence la campagne de Valentin Madouas. Alors, on parlait, parce qu'Elmos fait des grandes déclarations. On rappelle quand même que Valentin est top 5 mondial, y compris fantastique, donc, hein, y compris fantastique. Je suis désolé. Non, il n'a, selon moi, rien montré. Il a des résultats en trompe-l'œil sur les Ardennaises avec l'Amstel de Liège où il est dans le top 10. Liège, c'est un peu miraculeux. Et l'Amstel, ce qui est sa meilleure place, si je ne dis pas de bêtises, pour moi, pourtant, c'est le meilleur symptôme de sa mauvaise campagne. Il a là une situation de course. Si tu es dans les meilleurs mondiaux, là, tu n'es pas en train de frotter, tu es devant. Tous les grands noms, à part Pidcock, j'ai déjà dit, sont restés derrière. C'est un scénario de course, tu dois pouvoir profiter. Comment tu n'es pas dans les quatre qui se jouent la gagne après au sprint? C'est impossible, ça. Donc, pour moi, clairement, Valentin Madouas, et en dehors du fait de sa déclaration, hein, parce que je charrie un peu avec ça, bien sûr que je ne le considère pas top 5 mondial, mais je considère qu'il vaut mieux que ce qu'il a montré ici sur les classiques. C'est pour ça que c'est ma déception. Si j'attendais vraiment rien de Valentin, je dirais pas ça. Pour moi, il doit faire mieux, et clairement, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu un Madouas en top forme cette saison, en fait.
Ouais, peut-être là aussi lancer le mini-débat. Est-ce que Valentin Madouas, ben, c'est vrai que peut-être un peu décevant sur les Ardennaises, ou en tous les cas des résultats en trompe-l'œil. On a vu qu'il a fait quand même aussi toute une série de classiques plutôt flandriennes. On l'attendra, j'imagine, sur le tour pour épauler David Godu. Est-ce que quelque part, c'est pas un coureur qui se perd finalement à courir après trop d'objectifs trop différents? Est-ce qu'il n'aurait pas tout intérêt à se concentrer sur un type de course? Et alors, je vais aller au-delà. Si oui, lequel? Parce qu'on a cité Pitty sur les Flandriennes, on a cité Grégoire sur les Ardennaises, je viens de citer Godu sur les Grands Tours. Alors, pour en tous les cas, les quelques mots qui restent, il y a évidemment Lenny Martinez. Donc, qu'est-ce que Madouas doit faire pour, quelque part, confirmer le niveau qu'on voulait lui prêter peut-être en 2022 ou 2023.
Pour moi, il doit viser les courses les plus dures parce que je veux bien l'entendre. C'est un des coureurs les plus endurants. Les trois courses qui lui iraient le mieux sont l'Estrade, le Ronde et Liège-Bastogne-Liège. C'est compliqué de faire les trois, mais pourquoi pas, hein, il y en a quand même qui l'ont déjà fait. Un coureur comme lui n'a rien à faire sur le Grand Vélodrome ou le 3. Pourquoi? Parce que là, on le voit quand même de loin avec son maillot tricolore. Dès qu'on a une vue d'hélicoptère, le gars est constamment derrière. Ah, ça. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'arrive pas à plus performer, mais qu'est-ce que tu veux espérer? Alors, sur une course comme le Ronde, où c'est l'endurance, etc., il peut s'en sortir en dépassant certaines personnes, mais sur une course comme Gent-Wevelgem ou le 3, qu'est-ce que tu veux espérer en étant constamment derrière? C'est pas possible. Et voilà, je vais nous faire perdre encore plus d'abonnés, Damien, mais justement, moi, il n'est pas dans mes déceptions parce que j'attendais pas grand-chose.
Ah oui, je peux pas dire que j'en attendais la gagne, mais j'en attendais mieux que le côté fantomatique qu'on a vu. Pour répondre à Romain, je vais dire que je pense comme Alexis. Exactement la même chose pour les trois courses. Pour moi, c'est les trois courses qui lui vont le mieux. Et je suis pas sûr que ce soit dû au fait qu'il ait fait un peu des courses à gauche, à droite. J'ai juste l'impression qu'il n'a pas été au niveau cette année, en fait.
Et peut-être une dernière question sur Valentin Madouas. Est-ce qu'on n'attend pas un petit peu trop de lui depuis qu'il a mis le tricolore? Parce que c'est un magnifique maillot. Tu l'as dit, vu l'hélicoptère, on le repère tout de suite. On voit tout de suite qu'il est en queue de peloton. Est-ce que quelque part, c'est pas un maillot qui peut-être le dessert?
Moi, ce qui le dessert, je pense, c'est plutôt son round où la troisième place tombe un peu du ciel. Bon, il a quand même été fort, hein, mais je pense que c'est ça qui le dessert. Depuis ça, quand j'entends les avis sur Twitter, etc., c'est comme si c'était ça le niveau réel de Madouas. Franchement, mais on peut aller regarder tous ses résultats. Il n'a fait quand même qu'une fois un truc pareil. Ce qu'il a fait au championnat de France, c'était super, hein, mais ça reste, entre guillemets, le championnat de France, qui est une grande nation, mais c'est pas international. C'est une course quand même où il ne faut pas oublier que la Groupama, ils sont 48 au départ face à 2 mètres de Trek. Et, enfin, bon, voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ce maillot-là. Moi, j'ai vraiment l'impression, je reste sur le fait qu'on attend trop depuis ce round.
Et peut-être qu'il est trop surveillé aussi depuis ce run, parce que justement, c'est un gars qui, comme il ne s'est pas frotté, doit être à l'avant, mais il est trop fort pour être à l'avant. Donc au final, il se retrouve PG.
Est-ce qu'il y a encore d'autres coureurs que vous aviez envie de mentionner comme peut-être des petites déceptions ici de ce printemps?
Sans argumenter, je vais griller la politesse à Alexis parce que je sais déjà en off, il m'en avait déjà parlé un tout petit peu. Lascano, un petit peu.
Ouais,
Voilà,
pareil.
pas une énorme déception, mais un petit peu quand même.
J'attendais plus depuis la course en Espagne et Écurne.
Oui, mais peut-être que c'est ça. Donc, on rappelle, hein, il gagne la classique à Jaén, qui est un petit peu la Strade Bianche à l'espagnol. On l'a vu très à l'affût sur Kurn, effectivement. On l'a quand même vu aussi sur le round. On rappelle qu'il est dans le bon groupe, il est bien positionné jusqu'au Koppenberg. Et puis, sur les 13 derniers kilomètres, il prend un tir de plus de 10 minutes. Est-ce qu'il n'a pas terminé à pied? Enfin, on sait toujours rien.
On sait
Ben,
toujours pas
oui.
ce qui s'est passé.
Voilà, c'est surtout, c'est même pas sur 13 derniers kilomètres, c'est sur le Koppenberg, c'est le plus beau tour de magie que j'ai vu depuis longtemps. Il est magnifique et puis paf, il a disparu.
Est-ce qu'il ne donne pas son vélo à Garcia
On
Cortina?
sait pas, on
Peut-être,
sait
je trouverais
pas.
ça fou, mais peut-être, oui, je sais pas.
Oui, moi j'avais envie de citer quand même un autre nom et ça va vraiment déplaire, je pense, à Damien. Ben, c'est
Ah.
Arnaud Delis. On doit le citer. Alors attention qu'Arnaud Delis a
Non, on
chuté.
parle pas des fantastiques, on a dit Romain.
Merci Alexis, merci.
Joli. Non, mais c'est vrai, on peut parfois nous accuser d'un certain chauvinisme. On l'assume évidemment sur le petit plateau. Mais c'est vrai que Arnaud Delis, au final, c'est quelqu'un qu'on attendait malgré tout sur le petit plateau. Sur le petit plateau. Qu'on
On
attendait sur le
l'attend,
printemps des
Arnaud, on
classiques.
t'attend quand tu
Voilà.
viens.
Nous, on l'attendait sur le printemps des classiques et c'est vrai qu'on s'était dit, ben voilà, si en plus il va faire un bon résultat sur une étape du Tour de France, ce sera du bonus. Et au final, ben, il était transparent sur les classiques. Alors, il a des circonstances atténuantes, évidemment, hein, mais voilà quelqu'un qui n'a pas remporté de victoire sur le printemps des classiques. Et ça, forcément, quand on en reparlera dans quelques années et qu'on aura oublié les chutes, la maladie. Bah, ça fera un petit peu tâche, je pense, sur son palmarès. Donc voilà, puis c'est aussi pour un petit peu taquiner Damien, évidemment.
Oui, je m'inscris en faux avec tout ça. Voilà, je ne veux même pas rentrer dans le débat. Non, blague à
Voilà.
part, on en a déjà parlé. Moi, je trouve que son newsblatt, quand même, il était très très bon. Mais vraiment très 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 bon. Après, oui, il y a la chute au Samin qui entraîne. Et effectivement, en fait, pour moi, et on en a parlé dans un épisode qui était consacré aux chutes, et puis on avait parlé un peu d'Arnaud Delis. Effectivement, il y a Go Weevil Game et le 3, si je ne dis pas de bêtises, où là, c'est des vraies grosses déceptions, mais où on apprend juste derrière qu'il est malade et que ça a peut-être joué. Donc, j'ai toujours du mal. Je veux dire, c'est pas parce que c'est Delis et je vais sortir mon meilleur argument possible. Si j'excuse Skelmose parce qu'il y a eu l'hypothermie, etc., j'excuse Delis quand il est malade.
C'est vrai.
Hein.
Après, Delis donc ne s'est pas illustré, contrairement à son équipe, qu'on a beaucoup vu, l'Autodestini. C'est l'occasion de passer peut-être aux équipes. Alors, on ne va pas évidemment refaire toutes les catégories, mais de manière plus générale, quelle est l'équipe qui vous a le plus marqué, ça peut être dans un sens comme dans un autre, pardon, sur ce printemps des classiques?
Eh ben, moi, même indépendamment de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, je dirais un peu. Parce que même sans lui, extraordinaire, quoi. Parce que Philipson, pour les raisons que j'ai évoquées, Vermeer, j'ai jamais vu ça. Sur Roubaix, franchement, j'étais scotché. Et de manière générale, c'est une équipe qui devait assumer un certain statut auquel on n'est pas sûr qu'elle pouvait prétendre, mais au final, elle a rempli le pari, vraiment avec brio, quoi. Donc, elle m'a bluffé tant sur le round que sur Paris-Roubaix. J'ai été vraiment bluffé par Alpecin.
Je profite de ton choix pour rattraper quelque chose où je m'en suis voulu de ne pas l'avoir dit après Paris-Roubaix. Fatalement, on a retenu les trois grands, mais je voulais aussi citer Timo Kilic, qui a fait une course de dingue
Ouais.
sur Paris-Roubaix, et on n'en a même pas parlé, en fait.
C'est un peu la reine des classiques aujourd'hui, Alpecin.
Ah oui.
Alpecin de Senin aujourd'hui, dit-on. Donc là, il y a effectivement un bon coup de la part du sponsor qui a délaissé la structure de Patrick Lefebvre pour aller vers celle des frères Rothoft et donc ben, rester la numéro un des classiques, notamment et essentiellement flandrienne, classique pavé. Alpecin, Damien, tu avais choisi une autre équipe, je pense.
Oui, ben, je viens toujours avec la même. Hein. Moi, je viens avec Lidl Trek.
Ah.
Pourquoi j'ai choisi Lidl Trek? Ben, l'équipe, alors j'ai un petit copion, hein, je lis. L'équipe, je dis, a quand même remporté La Panne, le Rund, la Flèche Brabançonne, Go Weevil Game, deuxième d'Estrade, deuxième de Roubaix, deuxième de Liège. Et vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, je triche. Il y a Lidl Trek masculine et la Lidl Trek féminine. Je triche volontairement parce que pourquoi je prends cet angle-là? Je l'ai dit pour Pedersen, mais en fait c'est toute l'équipe qui a pris ses responsabilités. L'équipe, il y avait des blocs et eux, ils sont venus dire, ben, nous aussi, on est là et maintenant on est une équipe favorite. Ils ont roulé, parfois on leur a reproché de prendre les courses en main, etc. Mais ils ont pris leurs responsabilités, ils ont fait du beau boulot, ils ont été offensifs. Le Go Weevil Game de Pedersen, c'est masterclass. On a vu du très bon Jonathan Milan à l'occasion. J'ai parlé de Skuins. Alexis, tu as mentionné Kirsch, tu avais tout à fait raison. On a vu du Stuyven, malheureusement, il a chuté, mais jusque-là, il était extraordinaire. Donc pour moi, la Lidl Trek mérite, et j'ai noté aussi, pardon, qu'on a même vu du bon Mollema sur les Ardennaises, ce qui revient pas trop mal dans le game. Donc ouais, pour moi, c'est une équipe, tant par ses résultats que par le nombre de coureurs, que par sa manière de courir, qui a marqué le printemps. Et j'ai fait un petit clin d'œil à l'équipe féminine parce que finalement, là aussi, super agréable d'avoir une équipe qui vient bousculer la SD Works, qui vient offrir enfin des vrais matchs dans le cyclisme féminin. On a eu Balsamo, Vanhanrooij, Longoborghini notamment, pas qu'elles trois, mais ces trois-là se sont beaucoup illustrées. Et ça fait beaucoup de bien en fait au cyclisme féminin. On parle jamais nous hein, du cyclisme féminin, mais je pense que, enfin, je le sais en fait, puisqu'on a discuté en off, on a quand même pris du plaisir dans cette campagne féminine. Et je pense qu'il faut vraiment le dire, même si on parle jamais cyclisme féminin, là on doit faire une exception parce que la campagne a été magnifique, pas que grâce à la Trek, mais en partie grâce à la Trek. Donc je voulais vraiment mentionner cette équipe en fait.
Oui, t'as bien raison.
Ouais, la Trek qui sur les tours aura aussi ben, une figure, je pense, marquante, c'est Gaia Réalini, hein, qui a fait une très belle saison l'année passée et qui pourrait venir chatouiller les guiboles d'Amy Vollering et autres sur le Tour de France. Tour de France auquel Lotte Kopecky ne participera pas. Si vous avez vu passer l'info, voilà, c'est confirmé, elle se concentrera sur les JO.
Ben, je voulais dire un dernier mot sur le cyclisme féminin, parce qu'en plus tu parles de Vollering, etc. Vollering, ben, je ne sais pas si c'est acté qu'elle va à la FDJ. En tout cas, c'est acté qu'elle change d'équipe, et je pense qu'on cite beaucoup FDJ. Ça aussi, ça pourrait faire beaucoup de bien. Et donc voilà, juste dire que ce cyclisme, il faut vraiment se mettre à le suivre, parce qu'il devient hyper intéressant, de plus en plus concurrentiel. C'était le gros problème ces derniers temps,
Bien
finalement,
sûr.
de ce cyclisme. Et là, si tu as Vollering qui débarque à la FDJ, où tu as déjà quelques bonnes coureuses, hein,
Ah, il y a
Ludwig,
Cécilie, hein, bien sûr.
Music, Cécile. Oui, donc je pense qu'on peut avoir un nouveau bloc encore, et bah, c'est top, quoi. Voilà, je voulais encore insister une dernière fois sur ce cyclisme-là.
Ouais, tout à fait. Si on revient un instant sur le cyclisme masculin cette fois-ci pour les équipes qui ont marqué, donc Alpecin, Lidl Trek, moi j'ai choisi une équipe dont on a déjà beaucoup parlé depuis le début de cet épisode, depuis même le début de cette saison. Bah, c'est Decathlon AG2R, la mondiale. Je l'ai dit, hein, Cosnefroid, pour moi une satisfaction de la saison sans aucun doute, enfin, du printemps en tous les cas. Gautra et Lapeyra pour les révélations. Donc forcément, je me devais de citer ben, le Decathlon dans son ensemble. Alors, c'est pas l'équipe qui a le plus impressionné. On aurait pu citer évidemment d'autres équipes pour ne se focaliser pardon, que sur les résultats. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé chez Decathlon, c'est qu'il y a une renaissance, très clairement. Je pense que l'année passée, on était nombreux à dire que cette équipe, elle sentait mauvais pratiquement. Il y avait pas grand-chose. Alors oui, Dario Gandon avait remporté la Febbraven-Mosson, mais en dehors de ça, on ne les avait pas vus. Et c'est vrai que de manière plus générale, depuis que Romain Bardet a quitté cette structure, il y avait cette volonté de changer l'équipe et de passer d'une équipe de grand tour à une équipe de classique avec des recrutements faramineux. On se rappelle, on l'a cité tout à l'heure, Greg Van Avermaet, mais sans avoir les résultats escomptés. Et là, maintenant qu'on a fait table rase de tout ça, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique. C'est peut-être et sans doute dû aussi au matériel. On en a parlé précédemment dans le petit plateau. Mais donc voilà, une transformation qui fait du bien. Et on sent qu'il y a une véritable dynamique qui se met en place. Et de manière générale, c'est agréable à voir aussi que chez nos voisins français, il y a cette dynamique qui va au-delà de la Groupama. On sait que la Groupama, elle symbolise quelque part le cyclisme français, mais là, AG2R est venue finalement rappeler qu'elle était là. Et il y a de très, très, très bons jeunes également dans l'équipe développement. Donc, c'est une équipe qu'il va falloir, avec laquelle il faudra compter évidemment dans les prochaines années. Decathlon AG2R, Alpecin, Lidl Trek, à l'inverse. Est-ce qu'il y a d'autres équipes bah, qui, par contre, vous ont déçu sur cette campagne des classiques?
Moi, très clairement, si je peux griller la
Oui.
politesse, Alexis, mais très,
Vas-y,
très, 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 très clairement, mon équipe Sportza Wheeler Manager.
vas-y.
En dehors de ça, honnêtement, non, c'est un petit trait d'humour parce qu'en dehors de ça, pas vraiment. Le seul truc que je veux dire, bah, ça pourrait être Visma parce que tu as beaucoup d'attentes au départ, mais il y a tellement d'aléas que je ne peux pas les mettre en déception. Donc en vrai, j'ai pas une équipe pour qui j'avais beaucoup d'attentes qui m'a déçu.
Ouais, c'est ça, on pourrait parler de Soudal, mais au final, est-ce qu'on avait des attentes? Pas vraiment. Et comme je dis, Van Sevenant, il a quand même sacrément performé. Et moi, j'ai envie de parler de Bahreïn, pas pour l'équipe, mais parce que j'ai pas parlé de Mohoric dans mes déceptions. Alors, c'est un coureur qui n'a pas été mauvais, c'est un coureur qui a des circonstances, mais c'est un coureur, début d'année, je l'attendais vraiment. top 5 sur quasiment toutes les plus grandes courses de ce printemps. Donc voilà, je suis un petit peu déçu quand même.
Oui, je suis assez d'accord. De nouveau, je n'avais pas spécialement envie de citer Soudal, parce que c'est vrai qu'on les attend sur les monuments, plus que les classiques printanières, sur vraiment les monuments. Et là, ils ont été pratiquement inexistants. Effectivement, Van Sevenen sauve un peu la mise avec sa sixième place sur Liège, mais sur le Rand, on ne les a pas vus. À Milan, San Remo, on ne les a pas vus, même si Julien Alaphilippe vient faire une neuvième place un peu dans l'ombre des autres. C'est un peu décevant. Après, il y a quand même des résultats, qu'on le veuille ou non, parce que si on se focalise que sur le World Tour, c'est vrai, c'est trop léger, mais si on va sur les courses 1-1 ou 1-Pro, ben voilà, il y a un Tim Merlier qui était épatant. On pourra d'ailleurs en parler dans quelques instants quand on va évoquer nos coups de cœur. C'est un de mes coups de cœur. Mais avant ça, donc, si je devais pointer une équipe, je vais en pointer deux. C'est Astana et Cofidis. Alors pourquoi ces deux-là? Parce que c'est les équipes qu'on a le moins vues par rapport aux équipes du World Tour. On vient d'évoquer la dynamique côté français chez Groupama, chez Decathlon. Bah, chez Cofidis, la dynamique, elle est inversée. Et alors chez Astana, ils ont été transparents. Ce n'est pas la première année que ça arrive. Mais rappelez-vous, quand on a fait un petit peu la préface de cette saison et qu'on a évoqué les différents transferts, on avait cité toute une série de coureurs bah, qui venaient un petit peu ici. Densifier cette équipe et qui venait effectivement apporter autre chose que des coureurs capables de faire une 17e place sur un grand tour. Et bon, les Cavendish, Morkov, Kanter, tous les sprinteurs, on ne les a pas vus sur les classiques. Et si on va chercher plutôt du côté de Ballerini, de Skilling, ils ont été totalement inexistants. Donc, Cofidis et puis surtout Astana. Voilà, décevant. Mais de nouveau, je vais reprendre l'argument d'Alexis. On n'attendait pas grand-chose, finalement, ces deux équipes.
Non, mais c'est quand même, en t'écoutant parler, c'est au point que j'avais même oublié les Ballerini et les Skilling qui pouvaient être des noms intéressants. Mais oui, non, effectivement.
Ouais. Alors, ben voilà, on recite effectivement des coureurs. On va terminer cet épisode de bilan des classiques du printemps avec nos coups de cœur. Là, il n'y a pas vraiment on va pas se limiter à un ou deux coureurs, évidemment. Je vais me permettre de commencer, puisque je l'ai cité, c'est Tim Merlier, qu'on avait vu très à son aise sur les courses par étapes en début de saison, qu'on a vu très à son aise sur certains classiques, qui. Au dire de certains, c'est affiché comme le meilleur sprinteur du monde, tout simplement, à l'heure actuelle. C'est d'autant plus réjouissant qu'il navigue dans un environnement très particulier, on le sait, on l'a déjà évoqué, on ne va pas refaire évidemment toute l'histoire de la Solo Quick-Step et de ce changement vers le Remco, enfin le projet Remco Evenepoel. Mais donc voilà quelqu'un qui, finalement, pratiquement à chaque sortie, montre que c'est peut-être lui, à l'heure actuelle, le numéro 1 chez Soudal Quick-Step, si évidemment on accepte Remco Evenepoel. Quels sont d'autres coureurs que vous aviez envie de citer comme coup de cœur de ce début de saison et plus particulièrement de ces printemps des classiques?
Dans mes coups de cœur parmi les coureurs que j'ai pas encore cités, parce qu'il y a quand même pas mal de coups de cœur parmi les coureurs que j'ai cités dans d'autres catégories, je peux parler de Thijs Benoot, dont Damien a déjà parlé. Je peux parler de Jonathan Milan, de Lawrence Rex, notamment. Tu avais parlé de Tim Mollens aussi, Romain. Et voilà, donc ça c'est quelques coups de cœur. Et je viens d'en penser à un autre, mais il me revient plus, donc je vais vous laisser parler et je le dirai dès qu'il me revient.
Ouais. Ben moi, j'ai déjà évoqué, c'est un coup de cœur et en même temps un coup de poignard, c'est Jasper Stuyven. Vous le savez, à vous que j'ai toujours
C'était
bien
mon
aimé
nom, ouais.
Jasper Stuyven. Ah ben voilà,
Voilà.
voilà, vous savez comme j'apprécie ce coureur, le voir à ce niveau-là, mais c'était énorme, énorme coup
À
de
fond.
cœur de Milan-San Remo au classique pavé jusqu'à sa chute, c'était incroyable. Et un coup de poignard parce que ça s'arrête beaucoup trop tôt alors qu'on aurait voulu en voir plus.
C'est
Et il
clair.
rajeunit pas. Et j'espère qu'on aura de nouveau droit à Stuyven version début 2024, déjà d'ici la fin de saison, mais surtout l'année prochaine sur les courses que je préfère. J'espère qu'on le reverra à ce niveau-là. Après, pour citer d'autres noms, Alexis avait cité, a parlé de Van Sevenan, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Alexis a cité Rex, bon, je l'avais mis aussi. Pour moi, il a passé la petite cape. C'est un garçon super sympa quand on l'entend à l'interview, etc. Donc, je suis content pour lui et j'espère que ça se confirmera l'année prochaine. Qu'il a passé ce cap. Et j'ai encore deux noms, mais je vais redonner un petit peu la parole à Romain, parce que j'ai bien senti que tu avais d'autres noms en réserve.
Évidemment, évidemment, et c'est vrai que, bah, il y aura peut-être des noms qui vont être communs. Je vais commencer par un nom, c'est Antonio Morgado, le petit portugais de UAE. J'aime beaucoup le cyclisme chez les Espoirs, et donc c'est un nom forcément qui est revenu, d'autant plus que c'est formation de chez Axel Merckx, hein, la Hagens-Bermans Axéon. Donc c'est pas totalement improbable de voir ce gars aux avant-postes, mais voilà un coureur qui déteste les pavés, qui n'était pas du tout habitué à ce genre de course, et on l'a vu que là-dessus, enfin que là-dessus, on l'a vu ailleurs dans d'autres circonstances de course, sur d'autres profils de course, et notamment sur des courses par étapes. Mais donc voilà un gars, c'est très prometteur, je trouve. J'avoue que en début de saison, s'il avait fallu pointer les 4, 5 meilleurs espoirs néo-pro cette année-ci, je ne l'aurais pas mis dedans. J'aurais peut-être mis 6 ou 7e. Mais donc voilà quelqu'un où je me dis, là, UAE, il a déniché une pépite. Et c'est évidemment loin d'être la seule pépite chez UAE. Hein.
De plus.
Ouais, Del Toro qui a prolongé, c'est tout récent, hein, jusqu'à 2029 son contrat. Ben voilà, c'est les deux néo-pro de cette année-ci chez UAE. C'est de la bombe, mais vraiment de la bombe. Donc Morgado, et alors je vais encore en citer un, et puis je laisserai Damien continuer parce que on a peut-être le même. C'est un Colombien,
Bien sûr.
évidemment. Et c'est un Colombien, mais qu'on a vu finalement, on peut lire essentiellement sur une course.
Bien sûr.
La plus récente, la dernière, Liège-Bastogne-Liège, Egan Bernal. Qu'on a vu par ailleurs de nouveau sur d'autres types de courses, mais quel bonheur de voir un coureur qui était si près de la mort, je crois qu'on peut le dire, mais qui revient l'année passée très sincèrement. Quand on a vu comment il peinait, on s'est dit c'est foutu, c'est fini, il reviendra plus. Et non seulement il revient, mais il se cache pas. Il se montre offensif sur des courses qui ne sont pas son terrain de prédilection. Egan Bernal, des côtes de 2 km, ce n'est pas là-dessus qu'il a gagné le Tour de France. Mais il se montre, il attaque, il est présent. Et voilà, c'était vraiment un énorme bonheur de voir Bernal sur cette doyenne. Donc, c'est un coup de cœur, pas sur le printemps des classiques, c'est un coup de cœur généralisé sur ce début de saison tout court.
J'étais sûr que tu allais le citer, c'est pour ça que je t'ai redonné la parole. Et moi, j'avais écrit, alors j'ai terminé mon petit mot, mes petites notes, par quel bonheur de le voir comme ça. Donc, tu vois, on se retrouve. Et j'avais commencé par, dans la catégorie coureur frisson, je demande Egan Bernal. Bah, tu l'as dit tantôt, Romain, on était dans la redoute. Moi, quand j'ai vu Egan Bernal, là, dans la redoute, chassé derrière Pogacar et Carapaz, il y a mon cœur qui s'emballe de voir Egan comme ça. Extraordinaire. Et puis, j'ai regardé la course en rediffusion bon, il y a un jour ou deux, là. Ah, quelle course, quoi. Quel coureur, énorme coup de cœur. Alors, j'avais mis aussi, parce que c'est dur de dire ça sur une campagne de classique alors qu'il n'en a fait qu'une, hein, mais on ne pouvait pas passer sous silence. On était obligé d'en parler. Et alors, j'avais dit que j'avais encore deux noms. Le dernier nom que j'avais noté, c'est Tobias Johannessen. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Je suis allé voir la Flèche Wallonne et j'avais eu la chance de faire une petite photo avec lui et d'échanger deux mots. C'était pour moi le coureur le plus sympathique que j'avais vu cette année-là au coureur. Il était vraiment très chouette. Donc, du coup, déjà, j'aimais bien le coureur pour ses qualités sur le vélo. Et ben, après ça, ben, je deviens totalement fan du coureur. Je suis dégoûté en début de saison quand il se fait la clavicule alors qu'il semblait démarrer très, très fort. Donc, je n'attends plus. Et hop, le voilà à la Flèche Wallonne dans une condition dantesque. D'ailleurs, petit coup de cœur annexe pour Uno X sur cette course. Il fait une flèche incroyable et sur Liège, qui est une course longue où il n'avait pas encore vraiment performé sur ce genre de format, il répond présent aussi. Donc vraiment un vrai bonheur de voir Tobias Johannessen et j'espère que enfin il va être épargné parce qu'il cumule pas mal. Hein.
Ok, j'ai encore un dernier nom aussi, toujours sur la culture de l'instant et toujours par rapport plutôt aux Ardennaises. Bah c'est plus qu'un coureur, c'est l'émotion qu'il a pu démontrer à l'arrivée. C'est Romain Bardet. On a tous vu, je pense, cette image passer la ligne où ils fondent en larmes. Je trouve ça assez exceptionnel de voir un coureur de 33 ans qui a à peu près tout connu. Si ce n'est peut-être effectivement une victoire au classement final du Tour de France. Mais donc un coureur qui a vécu énormément de choses et qui, à 33 ans, sur une classique où on ne l'attend pas forcément, tient en respect les meilleurs du monde, à l'exception de l'extraterrestre dont on ne peut pas dire le nom. Parce que quand, sur le sommet de la Rochefoucauld, ils reviennent à 5 secondes, et c'est-à-dire à 20 mètres, hein, disons-le franchement. Là, je pense que tout le monde se dit, bon, bah, il aura fait une superbe course, Romain, il aurait mérité quelque chose. Eh ben, il a continué. On a vu aussi, j'espère que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur Twitter, ça passe, c'est une vidéo en slow motion de son passage, justement un peu plus bas dans la Rochefoucauld, où on le voit grimaçant, mais il souffre vraiment sur le vélo. Et voilà quelqu'un qui fait des résultats, mais qui montre aussi les émotions. Et moi, ça me touche personnellement parce que on a beaucoup parlé de Thibaut Pinot sur le petit plateau, qui est un coureur qu'on a adoré, plus pour les émotions qu'il suscitait évidemment que pour les résultats qu'il a produits. Et on sait que dans cette génération, Bardet, c'était un peu l'antithèse de Pinot. Et donc, il y avait d'un côté l'émotif Pinot et puis le robot Bardet. Eh bien, Romain Bardet sur cette course, mais ceux qui le suivent savent qu'évidemment, ce n'est pas un coup d'une fois et ce n'est pas anodin. Mais donc, Romain Bardet, c'est quelqu'un qui peut lui aussi transmettre énormément d'émotions, qui peut faire vibrer également. Et donc, c'est un coup de cœur ici et en même temps une sorte d'hommage que j'avais envie de rendre à Romain Bardet.
Ça me fait très plaisir. Moi, j'ai déjà dit, je pense que j'aime beaucoup Bardet et que je trouve justement qu'il a trop souffert de la comparaison entre guillemets avec Pinot.
Ouais. Romain Bardet qui sera peut-être un des coureurs à suivre sur le prochain Giro. Le Giro d'Italie, c'est le prochain rendez-vous évidemment que l'on vous fixe. Ce sera tout bientôt. On se reverra évidemment pour préfacer ce tour. Qui semble promis, on va devoir évidemment reparler des fantastiques et notamment d'un fantastique en particulier. Mais on a promis qu'on ne parlerait pas de ces noms, qu'on ne les citerait pas sur la fin de cet épisode. Donc on vous laisse évidemment deviner, vous le savez, je l'espère en tous les cas, que vous savez ce nom dont on tait le nom pour l'instant. On en reparlera très bientôt en tous les cas. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre ce printemps des classiques, malgré effectivement certaines courses qui auraient pu être plus spectaculaires selon certains, peut-être pas selon tout le monde, n'est-ce pas Damien?
Bien
En tous
sûr.
les cas, merci beaucoup. Alexis Damien, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour le Giro. Ciao, ciao.
Ciao, à bientôt.
À bientôt.